France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne, France Musique.
Seconde escale montréalaise ce soir avec deux acteurs de la création musicale québécoise, Lorraine Vaillancourt, qui présida aux destinées du nouvel ensemble moderne, et Serge Arcury, compositeur qui sculpte l'imaginaire sonore avec une dextérité hors norme.
Fondatrice du nouvel ensemble moderne, Lorraine Vaillancourt a exploré entre 1989 et 2016, année où elle laisse la main à Normand Forger, la musique du XXe et XXIe siècle. Berg, Chiarino, Webern, Boulez, Multaca, Carter, Harvey et même David Lang furent autant de compositeurs inscrits au répertoire de cet étonnant ensemble.
Qualifiée de résistante par la presse québécoise, Lorraine Vaillancourt a su, au fil du temps, susciter, développer, transmettre un répertoire qui lui tient à cœur, celui de la création. Nous l'avons rencontrée à Montréal, il y a quelques semaines. Lorraine Vaillancourt, bonsoir. Alors, vous avez fondé le Nouvel Ensemble Moderne en 1989. Qu'est-ce qui vous incite à l'époque à partir sur une telle entreprise ?
Bon, il faut dire que le Nouvel Ensemble Moderne, c'est un peu la suite de d'autres choses, bien sûr. Auparavant, il y avait les événements du Neuf, qui étaient une série de concerts un peu hors normes, que je co-dirigeais là, artistiquement avec Claude Vivier, John Réa, Denis Goujon, José Evangelista, donc des compositeurs essentiellement, et moi. En faisant ces événements du Neuf pendant 12 ans, on sentait le besoin d'avoir un ensemble, un groupe de musiciens un peu plus permanent qui travaille le répertoire de façon un peu plus approfondie. Et au fil des années, c'est un besoin qui était devenu de plus en plus pressant. Puis, bon, les carrières de tout un chacun sont parties dans des directions différentes. Et moi, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin avec ce désir. J'étais déjà à l'Université de Montréal, faculté de musique. Je dirigeais l'atelier de musique contemporaine. Beaucoup de ces jeunes musiciens venaient jouer aux événements du Neuf. Et les derniers concerts qu'on a faits, on avait mis sur pied une tribune nationale jeune, pour les jeunes compositeurs. Et qui soumettaient des œuvres déjà composées, et on choisissait donc des œuvres en dehors de toute contrainte d'instrumentation. Je pouvais être vraiment pour 13 clarinettes, 2 accordéons. Il n'y avait pas de limite pour voix. Donc, on a fait comme ça une série de concerts et les musiciens avec qui je travaillais régulièrement en demandaient aussi. Il y avait un appétit pour faire ça, en fait. Donc, le premier désir, c'était vraiment de fonder un orchestre, carrément, pas un ensemble, mais un grand orchestre, avec des musiciens qui veulent travailler ce répertoire et qui ont envie de s'investir. Bon, j'ai réduit le rêve un peu, parce qu'il fallait aussi être réaliste. Et puis, évidemment, il y avait les modèles européens qui existaient déjà, donc déjà un répertoire qui existait pour ce type d'ensemble, une quinzaine de musiciens. Et voilà, il y avait à la fois le désir de travailler plus, parce que les musiciens disaient « Ah, mais qu'est-ce que ça aurait été ?» Parce que les concerts avaient beaucoup de succès. Ils disaient « Qu'est-ce que ça aurait été si on avait pu rajouter encore un peu de temps ?» Alors, le temps, pour moi, c'était un peu l'obsession. Je ne suis pas la seule, c'est certain. Surtout pas aujourd'hui, où tout va si vite et où on doit faire les choses vraiment sur le tas, presque tout le temps. Donc, voilà, c'est sur cette base-là que je suis partie, avoir travaillé avec des musiciens et faire un horaire de répétition. Au début, je calculais une heure de répétition par minute de musique. C'était mon point de départ. Et puis aussi de jouer le répertoire, pas seulement la musique d'ici. Parce qu'il y avait aussi un enfermement sur ce qu'on faisait. Je faisais beaucoup, beaucoup de musique de création. J'en ai fait beaucoup à la radio. Et j'avais envie d'ouvrir, justement, parce qu'il y a une quantité de compositeurs inouïs dans le monde, et le désir d'amener à Montréal des œuvres qu'on n'entendait pas, et d'essayer de créer un répertoire pour les musiciens. Parce que si on ne crée pas un répertoire pour les musiciens, on ne le crée pas pour le public. Donc on est toujours en espèce de roue qui tourne très, très vite. C'est comme ça que ça a commencé. Ce qui fait que le premier concert, il n'y avait pas de musique du Québec ni du Canada. C'était vraiment que des œuvres du répertoire, donc Hagel, Sarriao, Ligeti, Steve Reich. Bon, on a fait vraiment un concert énorme, Benjamin. Bon. Et voilà, c'est là que ça a démarré. Évidemment, la création s'est vite mise dans le décor. On a toujours fait des commandes, de toute façon, aux compositeurs d'ici, chaque année, pas seulement une, plusieurs. Mais ça, c'est resté quand même, au fil des ans, le désir d'être une sorte de vitrine, en fait. Et peut-être aussi d'affirmer le besoin d'interpréter la musique. Parce qu'on a fait... beaucoup d'ensembles sont nés de désirs de compositeurs qui se regroupent et qui décident qu'ils ont envie que leur musique soit jouée ou qu'ils se mettent de la partie. Mais un ensemble géré par des interprètes, en fait, qui avaient envie de jouer cette musique, c'était aussi un peu particulier. Donc la démarche était un peu différente de ce qu'on avait autour de nous.
Thank you.
avez laissé la main du nouvel ensemble moderne il y a quelques temps maintenant. Il semble pourtant que vous avez une certaine inquiétude sur l'avenir de la musique de création dans le paysage musical.
Je pense que c'est plus... je ne me sens pas en phase avec la période actuelle à ce niveau-là. C'est-à-dire que, oui, on va dans toutes les directions, on mélange beaucoup. Je suis très intéressée par les formes ouvertes. On dit, bon, on va en particulier en s'associant avec des arts, d'autres arts de pointe, que ce soit en littérature ou la danse ou... Oui, il y a des expériences extraordinaires. C'est multiplié par tous ces arts, c'est multiplié tous les problèmes et toutes les risques de la création. Ça prend des forces égales. C'est pour ça, pour moi, c'est la chose la plus difficile à gérer dans ce genre d'entreprise. Souvent, bon, on retient la musique, on retient ce qu'on voit, ou on retient ce qu'on on entend le texte, et puis on oublie de... C'est très difficile d'être à la fois ouvert sur tout, mais ça peut donner des résultats extraordinaires. Mais ça, c'est vraiment... Donc, il faut que ça soit des projets précis, travaillés à la base avec l'équipe. Et donc, moi, je suis restée... étant donné qu'il y a un fossé absolument qui n'a pas du tout été comblé au niveau de la présence de la musique de création, de la musique d'aujourd'hui, depuis le milieu du dernier siècle jusqu'à aujourd'hui, je continue de sentir le besoin de transmettre ça. De dire que ça existe, qu'il y a combien de personnes viennent au concert en disant « Ah, mais par hasard, parce que, bon, ils ont un étudiant qui joue, ou bon, il y a plusieurs, quand on travaille avec les étudiants, on a automatiquement les parents. » C'est extraordinaire, parce que là, ils découvrent un type de musique dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et ça les fait voyager. Et je pense que cette invitation au voyage, pour moi, sans autre chose que la musique, ça continue de me passionner. Et donc, ça reste quelque chose que j'ai envie de défendre. Oui, je suis intéressée par tous les projets connexes et tout ça. Oui, je suis toujours prête à embarquer dans l'aventure. Mais il me semble qu'il nous manque quelque chose encore. Il y a quelque chose qui n'a pas été transmis au niveau de ce répertoire et qui reste dans les cartons et qu'on n'entend pas parce que la radio maintenant ne diffuse plus rien. Donc, c'est une musique qu'on n'entend pas, qui ne fait pas partie de notre univers. Donc... ce trou-là, on en fait quoi dans les universités là, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire qui devrait être la nôtre? On n'a pas le temps d'arriver. Maintenant, en plus, les formations sont de plus en plus resserrées. On commence de plus en plus loin derrière. Et là, on arrive à peine au 20e, à peine, dans certains cas. Et puis, tout ce qui suit, c'est... On appelle ça des expériences. On ne fait pas des expériences, on fait de la musique. Et ça, arriver à défendre ça, donc ça continue de m'inquiéter, si on veut. Mais je suis pas négative par rapport à ce que j'entends. Il y a plein de choses passionnantes qui se passent. Mais au niveau de la formation, je vais dire, à un moment donné, il y a une compositeur qui me le faisait remarquer en disant « Ah, c'est bizarre. » La première chose qu'on devrait enseigner à un enfant, c'est le désir de la complexité. Puis il me disait « Bon, ça a l'air idiot comme ça, mais en même temps, on va tellement dans le sens inverse actuellement. Les choses doivent être simples, compréhensibles tout de suite, séduisantes. Il faut que ça fonctionne. Le public n'aime pas ça. » Oui, mais bon, d'accord, le public n'aime pas ça, mais bon, moi, je ne suis pas sûr de ça. Donc, est-ce que vous pensez que ça va se transmettre? Je ne sais pas. À travers tout ce que j'ai fait depuis 40 ans, 45 ans, il y a des choses, à certains moments, je me dis, ça passera pas, c'est une œuvre difficile. À chaque concert, je me dis, mon Dieu, on se fait des concerts compliqués. Il y a des œuvres qui passent comme une lettre à la poste et qui sont prises. Même si nous, de l'autre côté, on travaille comme des fous. Le travail ne passe plus, c'est la musique qui passe. Et ça, c'est la reconnaissance. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et je me dis, si ça existe, ça peut continuer d'exister. On ne peut pas se demander à l'avance si on va faire plaisir, parce que là, c'est un piège, ça. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Et à d'autres moments, j'ai l'impression de faire des œuvres beaucoup plus faciles, beaucoup plus séduisantes. Et puis bon, finalement, ça passe dans le beurre aussi. On ne s'agrippe pas à ça.
Thank you. France Musique.
Serge Arcuri est un sondeur d'âme, comme l'écrivait Michel Seymour. Depuis 1982, il se consacre à une composition plurielle qui l'emmène de la salle de concert aux écrans de cinéma et de télévision, gardant toujours une haute attention au polissage des facettes de son œuvre. Du Quattuor Arditi à l'ensemble Arion, il est parvenu à élaborer un style qui joue avec le raffinement et la délicatesse.
Thank you.
Serge Acurie, bonsoir. Alors, votre catalogue recèle d'œuvres diverses, notamment de la musique de film et de la musique de scène. Comment vous abordez cet exercice? D'une manière différente de la musique de concert?
Ah ben oui, ben, c'est-à-dire la musique de scène ou la musique de film, on est, je dirais, on est contraint par une histoire, par une réalisation et un réalisateur aussi. Évidemment, c'est pas, on n'a pas la liberté qu'on a vis-à-vis notre propre musique. Vous en avez fait vous-même, vous savez que c'est... Il y a quand même certaines contraintes liées au scénario, liées à l'histoire. Donc, ça oblige à... c'est pas tant pour la diversité de la musique. Ça me dérange pas. Je suis quand même assez versatile. Puis je peux aller d'un style à l'autre. C'est plus le conduit dramatique de l'histoire qui conduit la musique plus qu'autre chose.
Vous avez travaillé également l'électroacoustique, vous avez un catalogue de musique électroacoustique. Est-ce que vous avez créé des passerelles entre l'électroacoustique et votre écriture traditionnelle?
Les premières commandes qui me sont arrivées, c'était des pièces mixtes, donc qui alliaient instruments et sons enregistrés. La première pièce, première commande, c'est une pièce pour harpe solo, ce qui est terrible à écrire parce que c'est un instrument terriblement harmonique, dans le sens que, disons, avec les sept cordes, ça oblige une certaine modalité, mais ça a influencé mon langage d'une certaine façon. Et la deuxième pièce, c'était une pièce pour percussion et bande. À l'époque, c'était à l'Université de Montréal. J'ai fait une première pièce acousmatique, tout simplement bande, au conservatoire. Mais la première commande, c'était une pièce mixte pour percussion et bande à l'Université de Montréal, celle-là, que j'ai réalisée.
Alors vous avez une écriture très ciselée, très fine, qui se rapproche plutôt, à mon sens en tout cas, de la tradition européenne. Quel rapport vous avez avec la culture nord-américaine?
C'est des influences, je dirais, de différentes musiques. Au départ, j'écoutais beaucoup de jazz, mais mon influence de jazz, c'était beaucoup Weather Report. Et Weather Report, c'était un Tchèque avec un Américain qu'avec un Argentin ou différentes traditions musicales. Ça fait quand même du jazz. Donc, mon influence américaine, j'ai flirté, si on veut, avec la musique répétitive, avec Reich un peu. Surtout dans
les... Vous avez écrit la musique répétitive?
Oui, une pièce, entre autres. Pas dans la répétition stricte, là, où on prend un motif puis on le répète à l'infini. Ça, j'en ai pas fait tant que ça. Mais la technique a servi à des œuvres, entre autres, pour orgue, à des œuvres pour hautbois, percussion et son enregistré. Il y a des moments dans l'œuvre où j'utilise la technique, mais comme on utiliserait, la fugue, ou c'est une technique d'écriture et non pas une fin en soi, là.
Les sources d'inspiration peuvent être imprévisibles, mais néanmoins, comment vous organisez votre travail?
Je suis très désorganisé dans ce sens-là. Je peux pas dire, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une fresque, ça peut être une peinture, ça peut être aussi des sons. Dans le cas de ma pièce pour flûte et son enregistré, Migration, je voulais enregistrer les oies blanches à Cap-Tourmente, au Québec. C'était une condition pour l'écriture de la pièce, disons. J'avais eu une commande de Robert Cram, le flûtiste, Et j'ai tout de suite songé aux oies pour l'intégrer au langage de la flûte. Donc là, c'était le périple d'enregistrer les oies qui a façonné l'œuvre, si on veut. Donc ça peut être visuel, ça peut être sonore, ça, dépendant des œuvres. J'ai pas de préférence. c'est ce qui produit disons l'étincelle qui est important. Le reste, ben, c'est du travail.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne, France Musique.
Définir votre écriture.
Vaut mieux l'entendre.
Parlez-moi un peu de vos projets.
J'ai vu d'ailleurs que vous avez vous-même tâté le Requiem. Je travaille un Requiem en ce moment. C'est un projet personnel, donc, qui est à peu près irréalisable. On verra. Enregistrable, ça, c'est presque sûr que non. C'est pour grand orchestre, deux chœurs. Ils sont enregistrés. C'est des années d'ouvrage en avant de moi. J'ai commencé, je suis rendu au Dies Irae.
C'est un Requiem en latin.
Oui, la vraie forme du Requiem latin. Là. Et à part ça, j'ai une œuvre pour violon, une troisième. J'ai écrit une série d'œuvres pour violon solo. Je suis rendu à mon troisième soliloque pour violon solo que j'ai commencé à travailler d'ailleurs cette semaine.
La série, justement, des soliloques, c'est une série que vous avez imaginée à la base comme une série ou c'est cette première pièce qui a donné naissance à la seconde et à la troisième?
Non, c'est une première pièce qui était une commande pour un spectacle un spectacle multimédia où il y avait un comédien, danseur et le violon solo. La deuxième, il n'y a que le titre qui réunit les deux pour l'instant. C'était pour un concours de musique, le concours de musique du Canada qui se tient annuellement. Il y a quand même un bon bout de temps, c'est en 1994. Et la troisième, c'est la commande d'un ami pour sa fille qui est violoniste. Donc, ça dépend toujours au gré des événements. Mais ça forme, dans mon idée, la même poursuite. C'est comme, évidemment, Bach a écrit probablement ses six parties-là d'un coup, mais moi, ça, disons, c'est plus éparse.
Merci beaucoup, en tout cas, Serge Arcuri, d'être venu nous parler de votre musique. Et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci de vous avoir... Enchanté de vous avoir rencontré.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Julien Douminc et Tahar Bouklifa. Attaché d'émission Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver les Alas Brevets d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.